Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez sur REC 103.7. Nous sommes aujourd'hui en léger différé au Salon du Livre d'Entrant. Alors le temps d'un générique, on se retrouve tout de suite avec Sylvie Pichon pour parler de ce Salon du Livre en présence aujourd'hui de Julien Dassin et d'autres auteurs bien évidemment.
Le quart d'heure Poitevin.
Je suis donc en présence de Sylvie Pichon. Et Sylvie Pichon, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Comment se passe ce salon ?
Très très bien, impeccable. Hier, on a fait pas mal d'entrées. Les viticulteurs sont contents, les auteurs aussi. Et nous, c'est notre but, donc voilà.
Exactement, on va pouvoir faire un tour tout à l'heure à l'atelier œnologie. C'est une nouveauté, ça s'est déjà fait l'année dernière ?
Ah non, ça se fait tous les ans. Et les gens sont très intéressés pour découvrir l'univers du vin à travers un professionnel qui leur apprend à le découvrir, à le déguster, à le reconnaître certaines saveurs, etc.
Exactement, puisque c'est un salon du livre et du vin, comme son nom l'indique, entre livre et vin. 8e édition, je crois.
8e édition, oui. L'année prochaine, on fêtera nos 10 ans, puisqu'on a 9 éditions à cause du Covid. On avait année blanche en 2020, mais l'année prochaine, on fêtera nos 10 ans, oui.
Avec des surprises, je suppose.
On va essayer d'en... Oui, de tout à fait. On va essayer d'en réserver au public un maximum, oui, pour marquer cet événement.
Je voyais hier sur les réseaux sociaux, on a vu donc Julien Dassin parler devant le public. Ça s'est apparemment bien passé, c'est quelqu'un de très charmant.
Ah oui, la salle était comble et c'est quelqu'un d'adorable qui n'a malheureusement pas connu son père, hein, puisque son père est mort, il avait 6 mois. Mais il a écrit un livre très attachant, qui fourmille d'anecdotes parce que au travers de ce que lui avait dit sa maman et puis de toute sa famille et de ses amis, il a réussi à reconstruire l'image de l'homme qu'il avait été et du chanteur qu'il était bien évidemment.
Il est encore là ce matin, on essaiera de le rencontrer tout à l'heure.
Il est là jusqu'à 12h30, donc si vous voulez le voir, après il repart pour Paris parce qu'il a un avion pour le Canada, il chante pendant un mois au Canada. Donc là, il faut, si vous voulez le voir, c'est jusqu'à 12h30 aujourd'hui.
Exactement, on ira le voir tout à l'heure. On va faire aussi un petit tour au niveau de l'atelier d'œnologie et puis voir quelques auteurs. Hein. Combien d'auteurs aujourd'hui ? 18 je crois.
19 aujourd'hui.
19 auteurs locaux, beaucoup. Hein.
Tout à fait, c'est partagé équitablement entre les auteurs locaux, les auteurs nationaux. Oui, on a une belle palette.
Eh ben c'est parfait, je vais vous laisser tranquille pour l'organisation. Merci. Et puis je vous dis à bientôt, on va faire un petit tour, merci.
Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin. Il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux. Il était une fois. Un motel sur la route du port. Un soir banal. Un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas montrer qu'on s'aime à 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Puis ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter de café, d'un sourire entendu, tu t'es caché, il n'a pas vu que tu. L'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amours. c'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand, avec le grand amour. C'était encore mieux que ça, c'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, c'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, souviens-toi, c'était encore mieux que ça, c'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi,
je suis avec Gérard, qui est œnologue amateur professionnel.
Ah, pas œnologue du tout, c'est un métier.
Oui.
Et pas sommelier du tout, c'est un autre métier. Une précision d'ailleurs que je viens de donner tout à l'heure. Les œnologues sont essentiellement au service du viticulteur pour arriver à sortir le produit que le viticulteur désire proposer à sa clientèle. Les sommeliers sont là pour nous aider à accorder le vin et le plein que nous allons consommer.
C'est celui qui nous met la bouteille à 50 euros dans au restaurant qui en vaut 30 ?
Pas du tout, pas du tout.
C'est
celui qui va, en fonction de nos moyens, en fonction de nos goûts et en fonction du plat que nous avons, nous proposer le vin le mieux adapté. Maintenant, savoir que dans un restaurant, ben, ils prennent une marge qui est intéressante sur les vins, tout le monde le sait.
C'est tout à l'heure un bénévole, hein, qui rappelait cette phrase de Jean Carmet, hein, qui est que la valeur d'un vin dépend surtout des personnes qui accompagnent le...
Non, un vin, il est fait pour être partagé. Moi, ce qui m'intéresse dans le vin, ce n'est pas forcément au départ ce qui est dans le verre, quoique quand je le bois, je préfère, mais ce qui m'intéresse, c'est le monde du vin qui est autour. C'est-à-dire le respect que j'ai pour les artisans viticulteurs. Je ne parle pas des usines à Pinard. Ça, ça n'a aucun intérêt. Les gens qui sortent le même vin tous les ans, tous les temps, tout le temps, ce que j'appelle du vin Coca-Cola, n'a aucun intérêt à mes yeux. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver tous ces petits artisans qui sont là ici aujourd'hui, ces gens qui triment toute l'année, qui sont passionnés par leur métier, qui ont affaire à la nature, à tous ces aléas, qui ont affaire au commerce, qui ont affaire aux problèmes d'importation, qui ont affaire aux taxes et compagnie, et qu'on retrouve sur nos salons, à essayer de faire connaître leurs produits pour arriver à vivre correctement alors qu'ils pointent avec leur famille. J'ai énormément de respect pour ces métiers qui sont des métiers de passionnés, des métiers d'artisans comme on ne trouve plus beaucoup de nos jours. Donc j'essaye de faire connaître ce qu'il y a dans nos verres en passant d'abord par l'humain. Et ça, qu'est-ce qu'ils ont réussi à nous proposer ? Voilà ce que j'essaye de faire.
Et donc ce matin, atelier dégustation ici au niveau du Salon du Livre, entre livre et vin ?
Oui, atelier dégustation pour apprendre à lire, apprendre à comprendre ce qu'il y a dans un verre de vin, apprendre aussi comment on sert le vin. Bon, un vin qui est servi dans un verre à moutarde n'a rien à voir avec le même vin qui va être servi dans un verre à dégustation. C'est quoi un verre à dégustation ? Donc c'est une petite chose. Bon, certaines règles qu'il faut respecter qui sont très simples. Donc, on disait tout à l'heure, le vin c'est du partage. Bah, si on invite des gens avec une bonne bouteille, autant leur présenter dans les meilleures conditions. Et deuxième chose, il y a l'accord mets-vin. Bon, celui qui va avec une choucroute va mettre un vin du sud-ouest rouge. Ça risque d'accrocher un petit peu, après tout, pourquoi pas, mais quand même, il y a des accords, mais
vous
vin...
Vous passer en vin d'Alsace, ou des choses comme ça, peut-être.
On peut essayer de ces différentes choses, mais il y a des règles, il y a des choses, il y a des trucs à respecter. Il y a un site qui s'appelle Planète Vin, qui est génial, quand on ne connaît pas trop, on dit j'ai tel vin, qu'est-ce que j'ai comme plat qui peut aller avec ? Ou j'ai tel plat, j'ai une daube, j'ai un ragoût, j'ai un coco vin... J'ai un poulet. Bon, qu'est-ce que je peux mettre comme vin ? Et le site va vous donner les accords qu'on peut faire mes vins. Planète vin.
Vous qui avez un certain âge, on peut le dire, un peu comme moi, un peu plus que moi d'ailleurs.
Non, j'ai pas un certain âge, j'ai un âge certain. C'est pas pareil.
Depuis quelques années, enfin depuis de nombreuses années, le vin a évolué, forcément les goûts ont évolué.
Alors depuis tout le temps, le vin a tout le temps évolué. Les Romains faisaient déjà des vins, et certains vins qui pouvaient se garder plus d'un siècle. Donc tout le long du Moyen-Âge, les moines et autres ont continué à faire du vin. Le vin a évolué en permanence, et il continue à évoluer en permanence. Les goûts évoluent. Il y a une chose qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une époque, on achetait du vin, ce qu'on appelait des vins de garde, et on le gardait dans sa cave, on le gardait longtemps parce que c'était mieux, parce que... Oui, mais il y a de moins en moins de caves. Première chose, ça, les appartements, les maisons sont beaucoup plus petites. Et les finances sont beaucoup moins grandes au niveau de l'immobilisation. Donc on a des vins, même dans les Médocs et autres, qui sont faits aujourd'hui pour être consommés beaucoup plus vite. Donc dire j'ai gardé un vin dans ma cave depuis 20-25 ans, ouais, vaut peut-être mieux y goûter avant de le servir.
Donc, vous qui êtes amateur, un vin acheté en supermarché par rapport à un vin acheté à la cave directement, même marque, même produit, il y a une différence de conservation de...
Ça c'est la question piège. Ouais. Donc c'est la question piège parce que je préfère acheter tout le temps chez un caviste. Bien sûr. Tout simplement parce qu'il a des conseils, parce qu'il connaît ses vins, parce qu'il n'est pas forcément plus cher, parce que c'est quelqu'un qui va, j'allais dire, aimer et connaître les gens avec qui il travaille, plutôt que de prendre au hasard dans un rayon de supermarché. Maintenant, il faut savoir qu'on a les supermarchés dans les foires aux vins, on peut trouver d'excellentes occasions, parce que c'est quand même une très grosse vente, et pour les gens qui ont trop de stock, ben à un moment donné, ça permet d'écouler les stocks. C'est donc qu'on ne peut pas cracher sur les supermarchés. Autre chose, à Leclerc, par exemple, à Châtellerault, le magasin 20 sur 20, c'est un caviste. Les gens qui sont là sont des spécialistes et peuvent donner de très bons conseils. Donc ça n'a rien à voir avec le vin qui est en rayon. Mais dire on ne trouve pas du bon vin dans les rayons de supermarché, de nos jours, c'est bien. Non, il y en a. Mais il faut s'y connaître.
Exactement, ce qui n'est pas évident. On voit que vous y connaissez. En ce qui concerne s'y connaître, les vins du Haut-Poitou, alors je sais que moi, j'ai essayé d'en servir quelques fois à table. Ce n'est pas forcément ce qui plaît le plus. C'est classé comment ?
C'est quelque chose qui... Oh, quelle erreur !
Ah. Oh, quelle erreur ! Un vin peut-être à conseiller, d'ailleurs.
Alors, attention. Les vins du Haut-Poitou, je dis bien les vins AOC du Haut-Poitou, il n'y a presque plus de producteurs en AOC du Haut-Poitou. D'accord. Il n'y en a plus que 4 ou 5, parce que l'AOC du Haut-Poitou est une AOC relativement contraignante. Donc nous avons des producteurs qui font de très bons vins sur la région, qui sont en IGP Val-de-Loire.
D'accord.
Voilà, pourquoi ? Parce que l'IGP Val-de-Loire permet énormément plus de possibilités que l'AOC Haut-Poitou. Donc, nous avons de très bons vins. Il faut y aller. Il faut aller. Vous avez ici, je ne vais pas faire de la publicité,
mais
ils sont du coin, ils sont ici. Vous avez le domaine de la rôtisserie. Eh ben, moi, je vous conseille de tester leurs vins, en rouge comme en blanc. On goûte. Il y en a certains qu'on aime et qui n'aiment pas. Et ils sont très bien à des prix très corrects. Et un vin que j'ai découvert chez eux, le Noah. Attention, Noah, c'est le prénom de leur fils. Ce n'est pas le raisin.
D'accord.
Le Noah qui est fait avec un cépage Viognier. Le cépage Viognier, c'est un cépage qui est dans le nord de la vallée du Rhône. Normalement, ce n'est pas un cépage de nos secteurs. Donc, c'est un IGP... C'est un IGP Val-de-Loire. D'accord. Mais goûter ce vin avec du poisson, avec des viandes blanches, avec certaines choses, vous allez être étonné. Et à un prix très, très, très abordable.
Donc, domaine de la rôtisserie.
Domaine de la rôtisserie, ils sont ici. Ils sont sur le salon. Donc, c'est parce qu'on parlait des vins du Haut-Poitou.
Oui, bien sûr, tout à fait. Non, parce qu'on est dans le Haut-Poitou.
Voilà, mais eux, ils font du Haut-Poitou. Il n'y en a plus que 4 ou 5.
Ah oui, ce qui n'est pas énorme. Ouais.
Voilà. Donc,
la raison, donc on l'a dit, c'est par rapport à l'IGP.
Pas l'IGP. Par exemple, vous avez le Fiegri. Le Fiegri, c'est un cépage ancien qui était essentiellement dans le Poitou. Le Fiegri, personne ne connaît beaucoup le Fiegri. Là, je vous conseille d'aller goûter. Hein.
Ah oui, c'est...
Donc, c'est un vin qui est... Ben, vous en avez au domaine de la rôtisserie. Vous en avez chez Morgeau aussi, le Tour de Beaumont.
D'accord.
Mais ils ne sont pas là. Donc, domaine de la rôtisserie, goûtez le Fiegri. C'est un vin qui a un taux de sucrosité, c'est-à-dire de sucre résiduel d'environ 4%. Qui passe très bien à l'apéro, qui passe très bien, j'allais dire, à boire avec des copains. bien frais, c'est un plaisir, un régal. Le fier gris. Et quand vous sortez une bouteille de fier gris à table, avant, tiens, je vais te faire goûter du fier gris, c'est quoi ça ? Il n'y a pas plus de 700 hectares de vignes en France actuellement qui sont plantées.
D'accord.
Mais c'est un cépage qui est de plus en plus mis dans la région de Nantes, par exemple, pour assouplir justement les gros plants et muscadets qui sont quand même parfois un peu raides. Donc on rajoute du fier gris pour assouplir ce vin.
D'accord. Vous adorez le vin, on n'a pas à en douter. Vous avez une association, je crois que vous êtes membre d'une association sur Châtellerault pour les amateurs, pour ceux qui aimeraient...
Oui, il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça.
Non. Oui, je suis...
La retraite active.
Ah, oh là, très. Oui, moi je suis animateur du Monde du Vin, donc l'association AVEC, Accueillir et Vivre Ensemble à Châtellerault. Accueillir et vivre ensemble à Châtellerault, c'est pas que le vin. Nous avons plus de 350 adhérents maintenant, essentiellement des retraités. Nous sommes la plus grosse association de ce type en Poitou-Charentes, Touraine et compagnie. Donc on a des partenaires avec qui on a discuté et ça marche très bien. Donc on a eu 70 nouveaux membres cette année. Donc on propose plus de 30 activités différentes à nos adhérents pour une cotisation à 33 euros l'année, au choix, ils prennent ce qu'ils veulent. Plus des sorties, plus des visites, plus pas mal de choses toute l'année. Et on est une équipe d'une quarantaine de bénévoles soudés avec un conseil d'administration. Il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de président. Hein. Donc c'est fini.
Parfois pas plus mal quand on n'a plus de président.
Ben, disons que non, tout simplement, ça évite les conflits de personnes et autres. Nous sommes en direction collégiale, c'est-à-dire tous les membres du conseil d'administration se sont partagés, chacun des tâches et autres, d'une manière extrêmement conviviale. Et dans ce conseil d'administration, il y a un comité de pilotage, dont je fais partie, de 5 personnes qui font le plus gros du boulot de préparation. Et il y a beaucoup de choses à faire. Très sincèrement, c'est presque un travail à temps complet pour un bateau comme ça. Et ensuite, on en débat au sein du conseil d'administration tous les mois pour discuter. On prend, on ne prend pas, on fait pas.
Pas mal de choses, pas mal d'animation. Est-ce que ça vous occupe ?
Beaucoup d'animation, beaucoup de travaux. Tous les mois, il y a une réunion sur le monde du vin qui se passe au Jardin d'Arcadie avec un repas, des discussions autour du monde du vin. Et s'il y a trop de monde, on en fera une deuxième. Et c'est pas un souci. Il y a le loco, il y a tout ce qu'il faut.
Exactement, et la convivialité. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs tout à l'heure autour de la table ici, puisqu'on a l'atelier de Noogie qui va bien
donc,
débuter, je pense.
Tout le monde est invité sur cet atelier de connaissance du monde du vin, c'est savoir comment apprécier un vin, mais savoir comment le servir, comment faire partager à ses amis, à ses invités, ce qu'il y a dans son verre. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Eh bien, écoutez, Gérard, je vous remercie.
De rien.
Et puis, on va essayer de se rapprocher maintenant de Julien Dassin pour faire la connaissance un peu de l'auteur. Merci.
Allez-y.
J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de camp bien plus doux qu'un oreiller. Et des festins de roi sur le zinc d'un buffet de gare. J'ai connu bien des gens, je les ai tous bien aimés. Mais dans leur visage au fond je n'ai rien fait que te chercher. Il y a les filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Un jour ici, l'autre là, un jour riche et l'autre pas. J'avais faim de tout voir, de tout savoir, j'avais tellement à faire. À me tromper de chemin tant de fois, j'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. La 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 la.
Julien Lassin, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, écoutez, très bien.
Très bien, ça se passe bien apparemment ?
Ça se passe impeccable, je suis ravi d'être ici. Ce salon est très agréable et marrant.
Oui, c'est ça. C'est...
Parce que vraiment, on conjugue la littérature, la gastronomie, le vin. Voilà, c'est un salon d'épicuriens.
C'est ça. On avait l'année dernière Philippe Risoli d'ailleurs qui était ici, qui a aussi apprécié ce salon.
C'est très sympa parce que ceux qui aiment le vin vont être attirés par la lecture et ceux qui aiment la lecture vont être attirés par le vin.
Exactement.
Et bien évidemment le reste.
Vous reprenez l'avion tout à l'heure pour partir au Canada, je crois.
Je reprends l'avion tout à l'heure, je pars dans même pas une heure. Je rentre chez moi à Paris, je jette ma valise, j'en récupère une autre et je file au Canada.
Puisque vous me parlez de Paris et compagnie, de la famille, des enfants, des...
J'ai une petite fille qui est en vacances, voilà.
Alors, l'idée c'est de se rappeler, surtout vous êtes le fils de Joe Dassin, vous êtes le petit-fils de Jules Dassin là aussi.
Exact.
Fils d'eux, petit-fils d'eux, pas trop difficile à porter ?
Non, écoutez, moi j'ai grandi en étant un petit-fils et un fils d'eux. Et pour moi c'était une situation entre guillemets normale. Que je vis toujours normalement, en sachant que malheureusement, ça n'est pas une situation normale. Mais, regardez, je suis là devant vous.
Tout le monde se rappelle, les gens de mon âge en tout cas, je suis un peu plus âgé que vous, les gens se rappellent de ce qui s'est passé à l'époque, le décès de votre papa, le fait qu'ils étaient, je crois, en instance de divorce avec votre maman. Ça avait fait la une des journaux des faits divers à l'époque, comme on le vit quand on est enfant, alors vous étiez jeune.
Oh, si vous saviez, le nombre de personnes qui divorcent sur cette planète, il y en a plein. C'était une histoire, voilà, c'était un couple fusionnel, passionnel, et à un moment, ils ne s'entendaient plus, voilà, ça arrive. Alors je remets juste une petite chose en place, ils n'étaient pas divorcés, ils étaient en instance de divorce, mais n'étaient pas divorcés. Comment je le vis ? Comme n'importe quel enfant dont les parents auraient été divorcés, sauf que moi je ne peux pas le vivre, je ne les ai pas connus divorcés.
Exactement, parce que ma question était surtout par rapport aux relations qu'entretenait, je pense, votre maman avec vos grands-parents à l'époque, et c'était un peu la une des faits divers en disant qu'il y avait eu quelques soucis de ce côté-là. C'est des choses que vous racontez peut-être dans votre livre ?
Évidemment, je raconte ça parce que tout ce que vous avez pu lire dans les presses à Cancan, il y en a quand même une très grosse partie qui est complètement romancée. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de public, artiste ou quoi que ce soit, à partir du moment où vous êtes public, votre vie est fantasmée, est rêvée, tout est exagéré. J'allais avec ma mère tous les étés en vacances voir mon grand-père. Donc tout allait très bien.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut, parfois se méfier des journaux et puis des journalistes.
C'est surtout que vous regardez un tabloïd et vous dites « Ah, le grand-père et la maman ne s'entendent pas » et deux semaines après, vous les voyez tous ensemble là, au bord de la plage. Donc là, ça tient même plus debout.
Exactement. L'histoire de ce livre, donc, comment vous est venue l'idée de ce livre ? Un besoin ?
Alors, oui, c'est un besoin vraiment de remettre l'église au milieu du village, remettre les pendules à l'heure, parce que j'ai tellement entendu de choses sur ma famille, sur mon père, sur ma mère, qui sont fausses, que je voulais vraiment remettre en place. Faire aussi un petit comparatif avec ma vie, parce que moi, aujourd'hui, je parcours le monde avec les chansons de mon père, et comment je le vis, pourquoi moi, pourquoi maintenant.
C'est un besoin pour vous, pour votre fille aussi peut-être ?
Non, c'est tout simplement pour moi. Moi, vous savez, j'ai sur ma vie privée, ma fille, j'en parle très très peu, très rarement, parce que j'ai pas envie, j'ai peur de cet univers. Je pense que n'importe quel parent qui travaille dans ce métier-là a peur, parce que c'est un métier très incertain. Aujourd'hui, je suis là, mais demain, où est-ce que je suis ?
C'était un rêve pour vous, chanteur, ou plutôt...
Absolument pas. Moi, j'ai fait des études de droit et de commerce.
Ouais, c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Après, je me suis lancé dans le théâtre. Je suis parti vers le théâtre et la musique m'a rattrapé très, très vite. Donc, ok, la pomme ne tombe jamais loin du pommier, mais à l'origine, je ne devais pas faire d'artistique. Enfin, c'est ce que je pensais.
Vous avez été baigné dans le milieu artistique, justement, quand on a un papa qui est décédé, vous aviez 6 mois, je crois, vous étiez très jeune. Vous avez été quand même baigné dans ce milieu ?
J'ai grandi là-dedans, moi. C'est vraiment l'artistique, c'est ma vie. J'ai toujours grandi dans des plateaux télé, dans des studios de radio, dans des studios d'enregistrement.
Parce que la vie a continué tout de même après, puisque votre papa est décédé, donc on l'a dit, vous étiez tout jeune. Ça veut dire que les émissions de Marie-Thier Gilbert Carpentier, vous ne les avez pas connues. Vous avez connu par contre
Je ne les ai pas connues, je les ai connues par procuration,
oui,
je regardais.
Sûr, oui.
Oh, qu'est-ce que c'était bien d'ailleurs.
Ah oui, c'était génial, oui, c'était une belle époque de ce côté-là. Ça a bien changé, on peut le dire aujourd'hui, c'est peut-être un...
Il n'y a plus de variété. Vous n'avez plus de variété à la télé. Maintenant, c'est un peu comme... comme nos téléphones portables, nos réseaux sociaux, c'est du scroll, comme ils disent. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Alors que dans les années 70, on attendait l'émission des Carpentiers, on restait collé devant la télé pendant 2 heures.
Exactement. À qui le dites-vous? Bah écoutez, je vous remercie, Julien, je vais vous laisser tranquille pour continuer ce salon. Je vais quand même investir dans un livre avec une dédicace.
Merci beaucoup.
Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant « Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. » Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise, et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant « Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa, c'est vraiment fatigant d'aller. » Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Et c'est ainsi que Taoutan, à travers les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semé aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin.
Quart d'heure, Poitevin.